Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Quel paradoxe. Ce psaume peut nous paraître un tantinet fleur bleue lorsque nous le lisons au vu de notre société et peut-être au vu de ce que nous affrontons dans notre quotidien. Ce psaume peut nous paraître un petit fleur bleue, nous imaginons David avec une pâquerette entre les dents, en train de faire paître ses brebis là au bord d'un ruisseau, dans le calme avec le ciel bleu, les nuages, pas un nuage à l'horizon. Il est tranquille, il est bien, ses frères ne sont pas là, son père n'est pas là. David se repose et là il compose le psaume 23. Qu'est-ce que c'est différent de ce que nous traversons et de ce que nous vivons? Et on se dit, oui mais David, nous on n'a pas un ruisseau, on n'a pas un des brebis. Nous, on a un patron, nous on a une épouse, on a un époux, on a des enfants, on a des problèmes financiers, on a un banquier. Nous David, on ne vit pas ça dans notre quotidien. Psaume 23, c'était bon pour toi? Mais pour nous, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Lorsque on regarde un petit peu la vie de l'auteur de ce psaume, on s'aperçoit que David n'a pas toujours connu le ruisseau, les brebis et les pâquerettes, mais que David a connu les trahisons, les abandons et des conflits familiaux pour le moins terribles, poussé à son paroxysme lorsque Absalom, son fils, a même voulu le tuer. Pourtant, c'est le même auteur. Certains commentateurs pensent que ce psaume aurait pu être écrit durant la fuite devant Absalom. Il change de relief. Tout d'un coup. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il y a mon fils qui essaye de me tuer. Quel homme de foi. Il est possible encore aujourd'hui de vivre le psaume 23. Et lorsque nous pénétrons un peu plus en avant dans ce psaume, nous voyons qu'en réalité, il est extrêmement réaliste. Parce qu'il nous parle des bénédictions, du fait que l'Éternel est notre berger, et il nous parle de tout ce que le berger peut nous apporter, de tout ce que notre Dieu peut nous apporter. Mais il nous parle également de ce que nous vivons au quotidien, parce qu'il nous manque, il nous parle de manque. Lorsque, si David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », ça signifie que il est possible qu'en tant qu'homme sur cette terre, je manque de quelque chose. Mais parce que j'ai mon Dieu avec moi, alors je ne manquerai de rien. Et ce que je vous propose de voir ce matin, et ça pourrait être le titre de notre réflexion, c'est les trois manques du psaume 23. Premier manque dont David fait l'objet, c'est le manque de besoins biologiques. C'est des besoins biologiques. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Le berger, il stockait, entre guillemets, ses brebis dans des parcs, dans des zones, et d'autres versions traduisent, il me fait reposer dans des parcs herbeux. C'était l'abri où les brebis pouvaient passer la nuit. Et ce qui se passait, c'est que dès le matin, elles avaient de quoi manger. Elles ne s'occupaient pas, le soir en se couchant, de savoir ce qu'elles allaient manger le lendemain matin. Mais elle savait que là où le berger les placerait, il y aurait ce qu'il faudrait. C'est beau une vie de brebis. Ça ne vous rappelle pas un verset des évangiles? À chaque jour suffit sa peine. Mon frère, ma sœur, tu ne manqueras de rien. Le Seigneur Jésus est le bon berger qui te fait paître et qui t'emmène, dans des parcs herbeux, là où tu auras toujours un brin d'herbe, là où tu auras toujours ce qu'il te faudra. Dans la parole de Dieu, nous avons l'exemple du prophète Élie qui a été nourri par les corbeaux au torrent de Kérit. Nous avons cette foule de 5000 hommes qui a été nourrie avec quelques pains et avec quelques poissons.
Nous avons l'exemple des disciples qui sont partis sans rien et à qui le maître dira, « Eh bien, avez-vous manqué de quelque chose ?» Et eux de répondre, « Non, nous n'avons manqué de rien. » L'Évangile nous dit que Dieu est un père et que s'il s'occupe eh bien, des lys des champs, s'il s'occupe du passereau qui est censé être vendu eh bien, pour moins que rien, à combien plus forte raison s'occupera-t-il de nous, ses enfants ? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien, il me fait reposer près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, littéralement, il la fait revenir à la vie. Lorsque notre âme est fatiguée, lorsqu'elle a faim, lorsqu'elle a soif, eh bien celui qui est dans les cieux, notre Père céleste, eh bien par l'action du Saint-Esprit, eh bien restaure notre âme, il la fait revenir à la vie. Et c'est extraordinaire, nous avons tous connu des moments de famine, nous avons tous connu des moments difficiles dans notre foi chrétienne, nous avons tous connu des moments où finalement on se demandait, eh bien, qu'est-ce que je vais devenir ? Comment est-ce que je vais faire pour aller plus loin ? Mon frère, ma sœur, si tu es dans cette position-là, souviens-toi uniquement d'une chose, c'est que l'Éternel est ton berger et qu'il restaure ton âme. L'Éternel est ton berger et il t'emmènera dans des parcs herbeux. L'Éternel est ton berger et il te mettra auprès des eaux paisibles. Il ne te mettra pas auprès des torrents qui seraient susceptibles de t'entraîner. Une brebis, eh bien, je l'imagine, il faut qu'elle mette les pattes dans l'eau pour aller boire. Et s'il y a trop de courant, que se passe-t-il ? Alors le courant l'entraîne et elle se retrouve fracassée contre les rochers. Mais quand le lit est calme, le lit du ruisseau est calme, alors elle peut boire tranquillement. L'Éternel restaure ton âme. Jésus dira, « Je suis le bon berger. » L'Éternel restaure ton âme. Il y a plein de mauvaises attitudes à avoir lorsque nous sommes en situation de manque. Plein. J'en ai retenu 4 très rapidement, parce que j'ai fait une promesse. On peut retenir par crainte de manquer. Voilà, nous sommes la brebis qui a un tout petit carré d'herbe. Et ce carré d'herbe, on le préserve. Personne n'a le droit de venir y brouter. Et finalement, on ne donne rien du tout par peur de manquer. On ne donne pas d'amour par peur de manquer d'amour. On n'arrive pas à ouvrir notre main pour faire du bien autour de nous parce qu'on a peur de manquer. On n'arrive pas à s'ouvrir parce qu'on a peur de manquer. Et finalement, on vit un petit peu ce que les hommes du temps du prophète Malachie vivaient. Ils avaient tellement peur de manquer qu'en termes d'holocauste, ils n'offraient que des bêtes malades. Mouchétives. Et le reste, ils le gardaient pour eux. Et l'Éternel de leur dire, mais si simplement vous obéissiez, vous me donniez eh bien, ce qui m'est dû, vous verriez si je n'ouvrirais pas les écluses des cieux et si je ne vous enverrais pas la bénédiction. Et nous, parce que parfois on a peur de manquer d'énergie, parce qu'on a peur de manquer de temps, parce qu'on a peur de manquer eh bien, peut-être d'argent, parce qu'on a peur de manquer de moyens, peu importe, alors on retient. Et on est des gripsous spirituels, des pixous spirituels. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est une attitude extrêmement humaine, mais finalement, en le faisant, nous perdons. Parce que nous passons à côté de toutes les zones herbeuses que le berger a prévues pour nous. La seconde, c'est la mauvaise attitude, c'est s'arrêter finalement de suivre le berger parce qu'on est fatigué. Voilà. Notre âme est malade, notre âme est en mauvaise forme, notre âme a besoin d'être restaurée, littéralement elle est dans la mort, et elle n'arrive pas à revenir à la vie, malgré tous nos efforts. Alors on se dit, eh ben, je m'assois et j'attends. Mais que nous enseignent les Écritures ? Psaume 84. Leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. Nous manquons de force, nous manquons d'énergie. Mon frère, si c'est ton cas, si c'est le cas, continue d'avancer. On ne te dit pas de courir. Continue d'avancer. L'Éternel renouvelle les forces pendant la marche. Trouve un second souffle spirituel. Pour ceux qui font du footing, vous le savez, les 5-10 premières minutes sont souvent les plus dures. Et puis ensuite, une fois qu'on a trouvé notre second souffle, Alors la mécanique se met en route et on est parti pour des heures et des heures. C'est votre cas, non ? C'est pas le mien. Spirituellement parlant, parfois, nous aurons besoin de trouver un second souffle. Troisième mauvaise attitude, c'est l'agitation. Il me manque, donc je cours partout. Les Israélites, ils avaient l'habitude de courir, faire des alliances à droite et à gauche. Et l'Éternel leur dira, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Quatrième mauvaise attitude, lorsque je suis en manque de force, en manque d'énergie, en manque de volonté, bref, c'est l'envie. Je suis en manque, donc je regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs, et puis l'envie commence à naître dans mon cœur. Le livre des Proverbes, au chapitre 14 et au verset 30, dit « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. » C'est terrible, la jalousie. C'est terrible. Regardez l'autre en disant « on ne se l'avoue jamais, hein. Jamais. Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir ce qu'il a ?» Mais on ne le dit pas comme ça. On le développe d'une manière différente, beaucoup plus subtile. Beaucoup plus hypocrite et beaucoup plus dangereuse. Quatre mauvaises attitudes. Mais la bonne, c'est celle de David. Et c'est celle que nous avons tous dans ce lieu. Je suis en manque à certains moments de certaines choses dans ma vie. Manque dans mes besoins biologiques, dans mes besoins élémentaires. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Jamais. Restons près du berger de nos âmes et il prendra soin de nous. Cherchons la paix et nous apprendrons le contentement. Nous apprendrons que le contentement et la piété sont une grande source de gain. Restons près de lui. Cesse de t'agiter, cesse de courir, cesse d'envier, cesse de poser des regards sur ce que les autres peuvent avoir. Regarde à ton Dieu. Regarde à ton Dieu et tes os se porteront nettement mieux. Je passe rapidement. Le second besoin que David exprime, c'est le besoin de sécurité. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, David dira, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton, eh bien, tels sont, voilà mon réconfort. David connaissait le danger, puisqu'il a dû fuir une partie de sa vie. David connaissait le danger, c'était un guerrier, c'était un homme qui était habitué à être au cœur des combats. David connaissait le danger, il avait l'habitude d'être menacé et de voir son intégrité physique eh bien, être mise en danger. De la même manière, nous connaissons le danger. Nous savons qu'il y a un lion rugissant qui cherche à nous dévorer. Nous savons eh bien, que les épreuves de la vie sont capables de mettre notre foi à mal. Nous savons que les conflits sont capables de nous mettre la tête eh bien, dans l'eau et puis pour en ressortir, c'est compliqué. Nous savons qu'il y a des ennemis qui peuvent nous faire du mal, peut-être dans nos familles, peut-être eh bien, autour de nous, des gens qui nous veulent du mal. Ok, nous le savons, nous connaissons et nous savons à notre tour eh bien, qu'il y a du danger autour de nous. Et comme tout enfant, on a besoin de sécurité pour s'épanouir. On a besoin d'être tranquille pour s'épanouir. Alors David, lui ce qui faisait sa sécurité, c'est qu'il regardait deux choses. Le bâton et la houlette. Le bâton, on peut lui trouver deux significations. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle a quelque chose de très rassurant. C'est que lorsque notre tête ne sait plus comment se dépatouiller et dans quel sens aller, eh bien la parole de Dieu place des garde-fous de manière à éviter que nous allions dans le ravin. C'est incroyable, lorsque le danger est là, lorsque les difficultés sont là, à quel point on est capable de tourner en rond et de faire n'importe quoi. C'est étonnant. Je ne sais pas si vous l'avez expérimenté pour votre vie, peut-être pas parce que vous êtes des hommes et des femmes extrêmement sages, mais moi oui. Quand le danger est là, heureusement qu'il y a la parole de Dieu pour nous ramener à notre bon sens, de manière à ce que nous n'allions pas dans le précipice. Eh Olivier, mais attends, souviens-toi un petit peu de ce qu'a vécu Élie, souviens-toi de ce qu'a vécu David, souviens-toi de ce qu'a vécu Jésus. Ah oui, mais Olivier, mais ça va pas. Qu'est-ce que tu allais faire ? Qu'est-ce que tu allais faire ? C'est rassurant. Et certains disent que lorsqu'une brebis allait dans le précipice, eh bien, l'arme, La méthode qu'utilisait le berger, c'est qu'il lançait son bâton de manière à stopper sa course. Lance ta parole ce matin, Seigneur. Envoie ta parole et stoppe peut-être une folie. Ne va jamais contre la parole de Dieu. N'avance jamais jamais à l'encontre de ce que dit la Bible. Parce que sinon, le précipice te guette. Deuxième chose que nous montre, que nous témoigne le bâton, c'est la puissance de Dieu. Moïse, dans sa main, il n'avait que son bâton. Mais pourtant, pour le peuple hébreu, c'était un signe d'autorité, c'était un signe de puissance. Combien d'hommes, combien de témoignages glorieux nous sont donnés. Lorsque tu as peur, lorsque tu manques de sécurité, plonge ton regard dans les Écritures et vois que ton Dieu, eh bien, s'est toujours montré fidèle et qu'il le sera toujours. Souviens-t'en. La deuxième chose qui rassure David, c'est la houlette. La houlette, c'est un bâton qui est arqué, vous savez, qui a un petit arc au bout. Et il servait notamment aux bergers à ramener les brebis ou les chercher lorsqu'elles étaient tombées. C'est le Saint-Esprit, ou c'est le ministère du Saint-Esprit. Et nous savons que ce ministère, il est glorieux. Saint-Esprit, le paraclétos, c'est celui qui soutient. C'est l'avocat, il soutient, il console, il porte, il conseille, il encourage. Bref, il y aurait une magnifique prédication à faire, mais j'ai promis de ne prêcher que 20 minutes, et là j'en suis, qu'une demi-heure, là j'en suis pratiquement... Il ne me reste plus qu'un quart d'heure. C'est magnifique, non ? Lorsque tu as peur, blottis-toi dans l'amour de ton Dieu. Lorsque tu as peur du lendemain, lorsque tu te poses des questions, lorsque tu traverses des épreuves, lorsque tu traverses peut-être le deuil, la vallée de l'ombre de la mort, lorsque tu sens que tu es au bord de chanceler, rentre dans ta chambre. Blottis-toi dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas du mysticisme. Mais c'est une réalité profonde. Viens auprès de ton Dieu. Et ne te relève pas tant que tu n'as pas été consolé. Vous l'avez certainement expérimenté, tout comme moi. Ces moments difficiles où on se sent profondément seul, où la nuit est lourde, où la nuit est pesante. Alors on tourne dans notre lit, de droite et de gauche, avec les soucis qui tournent. Et puis, fatigué, notre femme nous donne un coup de coude. Tu m'empêches de dormir. Alors on se lève. Et puis là, on se fait crier dessus parce qu'on a fait du bruit. Et on va dans le bureau, on va dans le canapé et on s'assoit. Et puis, on blottit la tête contre l'épaule de notre Seigneur. On lui parle de nos douleurs, on lui parle de nos souffrances. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'il ne nous donne pas de coups de coude parce qu'on le dérange. Il ne nous crie pas dessus parce qu'on a fait du bruit. Mais, eh bien, on entend battre les battements de son cœur, qui nous dit « Je t'aime ». Qui nous dit « N'aie pas peur, je suis là. Ne crains pas, je suis là. » Qui nous dit « C'est bon, allez, t'inquiète, pleure un bon coup. Moi, je prends les choses en main. Je prends les choses en main, je m'en occupe, je gère. Je gère. » Et là, on ne peut pas se retourner se coucher, sinon on va la réveiller. Donc, on travaille. Mais on est en paix. Mais on est en paix. On est bien. Je m'en occupe. Comme le berger prenait sa brebis la plus fragile et puis avec sa houlette l'emmenait sur son cœur, le Saint-Esprit nous emmène sur le cœur de Jésus. Mon frère, ma sœur, quand tu as peur, ne cours pas de droite et de gauche. Mais rentre dans ta chambre, ferme la porte. Va dans le lieu secret et puis parle à ton Dieu. Parce que l'Éternel est ton berger. Et lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, eh bien tu ne crains aucun mal. Son bâton et sa houlette, voilà ton réconfort. C'est pas autre chose. C'est pas l'ambiance musicale que créent les hommes qui génèrent le réconfort. Ce n'est pas l'ambiance que l'on peut créer, mais c'est la présence de Dieu, l'onction de Dieu qui génère du réconfort authentique et réel. Une autre intimité avec lui. Troisième chose, ça va ? Troisième point, troisième besoin de David, le besoin de reconnaissance. Alors où est-ce que vous le voyez ? Parce que là, vous êtes en train de dire, il fabule le pasteur. Hein ? Mais ça, on le voit au travers de l'hospitalité de Dieu. Il dresse une table en face de mes adversaires. On a tous besoin de reconnaissance. Tous besoin que... Mais ça non plus, on ne l'avouera jamais, d'accord ? Qu'on nous dise « c'est bien ». Votre femme a besoin que vous disiez « c'est bien chérie, les pâtes étaient meilleures que d'habitude ». Et mesdames, votre mari a besoin que vous disiez « le clou, il est planté plus droit que d'habitude ». On a tous besoin de reconnaissance. On a tous besoin de recevoir des paroles valorisantes, et notamment dans les couples. Ça, je fais une petite parenthèse, mais c'est extrêmement important que nous puissions nous valoriser les uns les autres. Non pas nous flatter, hein, parce que la flatterie n'a aucune base, mais nous valoriser, c'est savoir dire « chérie, c'était bien, merci, merci pour l'effort que tu as fait, merci d'être allé te promener avec moi, je sais que tu n'aimes pas ça, merci d'avoir accepté ci, merci d'avoir accepté ça, merci pour... » C'est vachement important. Hein ? Les paroles, ça nourrit notre âme. Et si vous voulez que votre couple fonctionne bien, apprenez à vous nourrir de bonnes paroles. De bonnes paroles, je ferme la parenthèse. Et des paroles encourageantes. J'en étais où ? Du coup, je suis perdu. Nous avons tous besoin de reconnaissance, merci. Et on s'aperçoit que Dieu, pour nous manifester cette reconnaissance, le berger qui nous accompagne, il nous ouvre sa table. J'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel, dit David. Il nous ouvre sa table, il nous ouvre sa maison. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. L'apôtre Paul écrira aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 19, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Je vais utiliser une formule que je n'aime pas, parce qu'il ne faut pas la galvauder, mais chez Dieu, nous sommes chez nous. Nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous sommes concitoyens de la cité céleste. Nous avons accès à la maison de Dieu, ce qui implique plusieurs choses. Premier point, Jésus nous accueille chez lui. Fabuleux. C'est toujours un honneur. Hein ? C'est toujours un honneur. Le Dieu des cieux nous accueille dans sa maison. Nous accueille dans sa présence. Lui qui est saint, il accueille des gens qui sont imparfaits comme nous. C'est un paradoxe, c'est un anachronisme, c'est quelque chose qui finalement nous dépasse totalement. Il faut le réaliser. Et la Tsunamite, elle est émerveillée au chapitre 1er du Cantique des Cantiques lorsqu'elle dit « Il m'a ouvert ses appartements. » Je suis entré dans ses appartements. Elle est émerveillée, elle est rentrée dans les appartements de son bien-aimé, de celui que toutes les femmes aiment. Mesurons ce privilège. Nous pouvons parler à Dieu sans intermédiaire. Nous pouvons parler à Dieu directement, avoir ce cœur à cœur directement. Nous sommes des gens de sa maison. Et puis ce n'est pas une invitation ponctuelle. C'est une invitation permanente. Nous habitons, comme nous l'avons lu en introduction, le psalmiste désirait ardemment demeurer dans la maison de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé au dimanche matin, mais nous habitons tous les jours dans la maison du Seigneur, parce que nous sommes toujours dans sa présence. Et lorsque nous sommes chez lui, il nous ouvre son cœur. Il nous parle. Il nous parle de sentiments. Il nous parle de ce qu'il ressent pour nous. Il nous parle de notre avenir, de direction. Et j'aime bien cette parole, et ça c'est le quatrième point. Il nous honore. David, qu'est-ce qu'il dit ? Il oint d'huile ma tête. Vous vous souvenez de ce que Jésus dira ou reprochera à Simon le pharisien ? Je suis venu chez toi, tu ne m'as pas donné de quoi me laver les pieds, ni même d'huile pour me mettre sous la tête, pour me rafraîchir. Quand on naît dans la maison de Dieu, non seulement on y habite, mais en plus nous y sommes honorés. C'est beau ça, non ? Nous sommes des invités de marque. Nous ne sommes pas simplement des balayures, mais nous sommes des invités de marque. Nous sommes émeus, profondément, de le savoir. Notre coupe déborde, il y a abondance. Ce n'est pas un petit peu. Mais il y a l'abondance et on connaît ce psaume lorsqu'il est dit que le ruisseau de Dieu, il est comment ? Il est plein d'eau. Il est plein d'eau. Donc, Dieu nous accueille. Nous avons besoin de reconnaissance et il nous donne cette reconnaissance au travers de l'hospitalité. Et il y a quelque chose qui est encore plus extraordinaire. C'est ce que dit l'auteur aux Hébreux, c'est que nous devenons sa maison. Hébreux 3:6, mais Christ l'est comme fils sur sa maison, on connaît ce passage, et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions des gens de sa maison. Sa maison, c'est nous. Quelle belle image. Et il en sera de même dans l'éternité, bien sûr. Jésus dira qu'il est monté faire quoi ? Nous préparer une place. Pour que là où il est, eh bien, nous puissions être aussi. Participerons aux noces de l'agneau, nous prendrons le repas avec lui. Nous serons chez lui, ou chez nous, eh bien, pour l'éternité. Dans ce lieu où il n'y aura plus de maladie, dans ce lieu où il n'y aura plus de souffrance, dans ce lieu où nous serons avec lui, où toutes les choses de la vie nous serons complètement étrangères. Le paradis, la gloire éternelle, la présence de Dieu. Ça donne envie, hein ? L'Éternel est mon berger. Je n'aurai besoin, j'ai tout ce qu'il faut en lui. Il prendra toujours soin de moi, de mes besoins biologiques. L'Éternel est mon berger. Je serai toujours en sécurité avec lui. L'Éternel est mon berger. Je suis connu et je suis reconnu et je suis honoré par lui. En conclusion, vous remarquez dans ce psaume, le nom de l'Éternel encadre, est au début et est à la fin. Dieu encadre nos besoins. Ce qui signifie que nos attentes ne seront pas forcément les siennes. Nos besoins ne sont pas forcément les siens non plus. Mais nos besoins seront toujours cadrés. On aura toujours ce qu'il faudra. J'aime beaucoup la conclusion. À cause de son nom. À cause de son nom. La réputation d'un berger était fonction de l'état de son troupeau. Un troupeau qui était mal soigné, le berger était considéré comme un mauvais berger. Jésus a fait une alliance avec nous. Nous sommes devenus des gens de son pâturage. Il est devenu notre pasteur. Il a fait alliance. Et si parfois il pouvait nous effleurer l'esprit que Dieu pourrait manquer à ses promesses pour X ou Y raison, parce que nous pouvons être infidèles, parce que nous pouvons penser que nous ne sommes pas assez bien, parce que nous avons fait ci, parce que nous avons fait ça, enfin bref, vous connaissez la chanson par cœur. Si la conscience de l'amour de Dieu pour nous ne suffit pas et ne suffisait plus, alors nous pourrions regarder le Seigneur et lui dire « Seigneur, viens à mon secours à cause de ton nom. À cause de ton nom, je suis ta brebis et je ne veux pas être mis dans l'indignité devant mes ennemis, je ne veux pas être humilié, je ne veux pas tout cela, Seigneur, à cause de ton nom, glorifie-toi. Glorifie-toi à cause de ton nom. À cause de l'alliance que tu as scellée. L'Éternel est mon berger. Et je conclurai de la manière suivante. J'ouvrirai la conclusion pour les mauvaises langues. en posant cette simple question. Es-tu sa brebis ? Ou alors ressembles-tu à la brebis de Luc 15 ? Es-tu sa brebis ? Peut-être que si ses besoins ne sont pas complètement comblés, ou peut-être que si c'est vraiment un gros problème pour toi, peut-être que si ça pollue ta vie, je suis toujours dans le peut-être. Peut-être est-ce. Parce que tu as perdu le berger depuis belle lurette. Et que parce que tu t'es éloigné, alors, il ne peut plus pourvoir. Il n'y a plus de pâturage herbeux, il n'y a plus. Reviens à lui. Et il pourra s'occuper de toi. Reviens à lui, il pourra s'occuper de toi. Que son nom soit béni. Amen.